Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Moins de malbouffe et d'aliments avec l'Ozempic, Yves.
Ça, c'est vraiment un premier coup de sonde qui est fait par un sondage qui a été fait par Sylvain Charlebois là, de l'Institut d'agroalimentaire de Dalhousie. Puis c'est un phénomène qui est déjà parti aux États-Unis, Richard. C'est que les gens qui décident, là, puis ça, au Canada, là, ça serait 3 personnes sur 10 actuellement qui utilisent ce type de médicament-là, essentiellement, là, pas pour le diabète, mais pour vraiment pour maigrir. Et là, évidemment, ça a un impact majeur sur les habitudes de consommation de tous ces gens-là qui utilisent ce médicament-là pour maigrir. Et donc, le sondage que ça montre, là, c'est 45% de ces gens-là mangent moins, 30% moins de bonbons, 27% moins de biscuits, 28% moins de boissons gazeuses, mangent moins de chocolat, moins de chips, puis vont moins au restaurant. Et là, c'est une panique aux États-Unis parce que toutes les compagnies de malbouffe, là, leur action en bourse est en train de chuter.
Ben voyons donc.
Les manufacturiers comme Nestlé et d'autres, parce qu'évidemment, bon, on sait que l'obésité aux États-Unis est un phénomène beaucoup plus grand qu'au Canada. Mais quand même, ici, il y a un phénomène quand même. Là. Et donc là, évidemment, les gens consomment moins, justement, au niveau de l'alimentation, compte tenu qu'ils utilisent ce produit-là, qui, en passant, permet en sorte de faire en sorte que... Puis il y a un médecin qui a expliqué ça à un de nos... à qui on a parlé, qui est un témoignage là, de la dame, là, Catherine Bruneau-Collard, qui a perdu, imagine-toi, 30 livres en 10 semaines avec l'Ozempic, là. Et l'idée, là, c'est que, dans le fond, ce médicament-là, ce qu'il fait, c'est il pré-programme ton estomac pour digérer pendant plusieurs heures plutôt que 2 heures seulement. Donc, t'es moins appelé à manger. Okay. Et donc, là, évidemment, c'est un impact sur la consommation. Et là, toutes les compagnies sont en train de réfléchir. C'est quoi l'impact de la fin de l'obésité avec moins de consommation, tu comprends?
Écoute, là, Coke et McDo doivent capoter, puis Burger King, puis Harvey's, puis tout ça, là. Ils doivent capoter. Écoute, ils vont faire...
C'est la panique aux États-Unis, je te le dis.
Mais ils vont faire pression, là, pour que ce médicament-là devienne illégal, d'après moi, là, parce que c'est pas bon pour leur chiffre d'affaires.
Ah non, non, écoute, c'est un méchant débat. Bon, évidemment, on n'a probablement pas le cas de ce qui se passe ici aux États-Unis, mais là, c'est le sondage qui a été fait par Sylvain Charlebois est un premier portrait de ce qui se passe ici au Canada. Wow. Et c'est quand même 3 personnes sur 10 qui utilisent ce médicament-là pour perdre du poids présentement, et c'est un phénomène qui risque de prendre de l'ampleur.
Ben écoute, depuis le temps qu'on se demande comment justement lutter contre la malbouffe, alors c'est grâce à une petite pilule, une petite granule qu'on va pouvoir lutter, ils doivent capoter bien raide. Là. Ben, il va falloir qu'ils se recyclent dans la salade puis les jus de fruits, qu'est-ce que je te dis? tu veux nous parler de ce qui s'est passé à Baltimore?
Hey Richard, c'est vraiment tout un incident. Tu sais, quand il arrive un événement comme celui-là, ça a une répercussion, tu sais, immédiate sur l'économie. Là, imagine-toi, ils viennent de décider de faire l'arrêt de toute l'activité au port de Baltimore. Et le port de Baltimore, là, c'est un point charnière pour tout ce qui est le transport de marchandises à travers là. Écoute, c'est 52 millions de tonnes de marchandises étrangères qui rentrent aux États-Unis par le port de Baltimore. Écoute, depuis 13 ans, là, c'est le port américain pour lequel il transite le plus de voitures neuves.
Ah oui.
Écoute, 800 000 en 2023, que ce soit les véhicules fabriqués aux États-Unis puis qui vont vers l'international, ou c'est à l'inverse, les véhicules étrangers importés aux États-Unis. C'est le port d'entrée aussi pour le sucre, le gyp, qui est un minerai qui est utilisé pour le plâtre. Écoute, c'est majeur ce qui se passe. Écoute, c'est le 9e port aux États-Unis où ce que c'est le plus de marchandises étrangères qui sont manutentionnées. Donc là, écoute, il est complètement fermé maintenant. C'est 155 000 travailleurs qui travaillent là. Donc, évidemment, là, c'est quand même inquiétant pour toute la circulation de marchandises aux États-Unis.
Mais c'est sûr et certain, parce que, écoute, là, il va falloir les travaux pour sortir tous les débris du pont de l'eau. Ça se fera pas en deux jours, ça, là?
Non, mais la question, c'est que le transport de marchandises va devoir passer par d'autres ports. Écoute, il y a toute une logistique, tu comprends-tu, qui doit se mettre en place pour revoir toutes ces marchandises-là qui arrivaient aux États-Unis. Écoute, c'est un méchant puzzle ce matin pour la population de cette région-là et pour l'économie américaine, là. Donc, certains vont trouver une solution, mais à court terme, là, c'est catastrophique pour eux.
Et cette histoire-là, dans la section argent d'une PME qui est victime d'une règle fiscale totalement absurde. Je lisais ça, le texte de Gabriel Côté, j'en reviens pas, explique-nous ça.
Enfin, l'idée, c'est que actuellement, il existe une taxe au Québec où toutes les entreprises doivent contribuer au fonds de services de santé du Québec. Ça, c'est une taxe pour faire en sorte que les entreprises payent pour des services de santé puis contribuer évidemment à un service public qui va évidemment profiter aux employés évidemment des compagnies au Québec. Or, le problème, c'est que c'est basé sur la masse salariale. Et donc, tu as une taxe actuellement qui est plafonnée à 4,26 lorsque tu atteins à peu près 7,5 millions de masse salariale. Mais l'idée, c'est que ça comprend tous tes employés et même à l'international. Autrement dit, on a le cas de cette entreprise-là qui est une agence de publicité qui a plus d'employés hors Québec, non québécois, qui sont à l'étranger. Et il est obligé de payer pour le fonds de santé, pour des employés qui n'utiliseront même pas le service ici.
Ben oui, ils ne sont pas au Québec, là. Ils sont obligés pour payer comme une assurance santé à ces gens-là, alors qu'ils ne sont pas au Québec. Ils n'en bénéficieront pas, donc que ça donne, ça?
Puis l'autre affaire, c'est que ce qui arrive, c'est que c'est basé sur, il y a un cap par rapport à ta masse salariale. C'est sûr qu'il y a des grandes entreprises, là, comme CGI et d'autres, qui ont probablement plus d'employés à l'étranger, mais eux autres ne sont pas pénalisés parce que déjà avec leur masse salariale au Québec, ils ont déjà atteint le maximum. Donc, eux autres, ils n'ont pas besoin de payer pour ceux à l'étranger. Mais pour des petites entreprises où ce qu'il y a, leur masse salariale est moins élevée, ben, ils sont appelés à être obligés, ils sont pénalisés pour ça. Donc, c'est une mesure fiscale, là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, les petites entreprises, là, c'est la base du Québec industriel et c'est eux autres qui sont souvent les plus pénalisés. Or, moi, je pense que c'est une mesure fiscale que le gouvernement du Québec devrait laisser complètement tomber pour des petites PME.
Plutôt que favoriser, encourager les jeunes entreprises qui grossissent puis qui créent de l'emploi puis qui créent de la richesse, on les emmerde tout le temps avec de la paperasse, des règles fiscales, les bâtons dans les roues.
Taxes.
C'est décourageant, les taxes, les impôts. À un moment donné, ces gens-là disent, regarde, je vais jeter la serviette. Pourquoi je me bats comme un fou alors qu'on n'arrête pas de me pénaliser? Excellent texte aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée.
Richard, à demain.